Musicopolis. Rue de la Croix des Petits Champs, vis-à-vis la rue Coquillière. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la rue Croix des Petits Champs se trouve dans un quartier fréquenté par de nombreux musiciens. On est à 5 minutes à pied du Palais Royal, où se tient l'Académie Royale de Musique, c'est-à-dire l'Opéra de Paris. On est à peine plus loin, 10 minutes, du Palais des Tuileries, où ont lieu les soirées du concert spirituel. Et plusieurs églises dont les organistes sont réputés se trouvent dans un rayon de quelques 500 mètres. Cette rue Croix des Petits Champs est celle où habite Jean-Baptiste Forqueray. C'est du moins ce qu'on peut lire sur la partition des pièces de clavecin qui paraissent en cette année 1747, le 28 mars, si l'on en croit le privilège général mentionné au dos du volume. En fait, deux volumes paraissent en même temps en 1747, tous les deux disponibles chez l'auteur, rue Croix des Petits Champs. Un pour viol de gambe et un pour clavecin. Le premier est ainsi titré « Pièce de viol avec la basse continue, composée par M. Forqueray le Père, ordinaire de la musique de la chambre du roi, dédiée à Mme Henriette de France, gravée par Mme Leclerc, livre premier. » Quant au second, il s'intitule « Pièce de viol composée par M. Forqueray le Père, mise en pièce de clavecin par M. Forqueray le Fils, ordinaire de la musique de la Chambre du Roi, dédiée à Madame la Dauphine, gravée par Madame Leclerc, livre premier. Si je récapitule ce que nous apprenons par les titres des deux volumes de 1747, il y a eu d'abord des pièces pour viol composées par Forqueray le Père et qui ont ensuite été mises en pièces de clavecin par Forqueray le Fils. Voilà qui semble assez simple. Mais non, en fait, ça n'est pas si simple. Et même pas simple du tout. Et de nombreuses questions ne sont pas résolues. Déjà, première question. Forqueray le Père, Antoine de son prénom, est mort en 1745. Un article nécrologique note qu'environ 300 pièces de viol qui nous restent de lui sont une preuve de la beauté de son génie. Tous les caractères en sont nobles et variés. On y rencontre partout de ces tours heureux, de ces riches modulations que les principes de l'harmonie fournissent, mais dont le goût seul peut faire le choix. Thank you. problème avec les quelques 300 pièces de Forqueray père mentionnées dans sa nécrologie. Il ne les a pas publiées et on n'a pas les manuscrits. Les seules œuvres qui soient identifiées de façon à peu près sûre sont attribuées à un certain Forcroy, manière dont Antoine Forqueray est très souvent désigné. Il s'agit de 4 pièces dans un recueil tiré des meilleurs auteurs. Forqueray y a sa place à côté de Marin Marais, Roland Marais, son fils, et Quai d'Hervelois, les plus grands violistes de son époque, actifs déjà à la fin du XVIIe siècle. Et si j'en reviens aux 2 volumes proposés par Forqueray, le fils, prénommé Jean-Baptiste, il nous donnerait donc à entendre des pièces de viol de son père, un choix parmi les 300, enfin édité par son héritier. Donc, en 1747, 2 ans après la mort de son père, Jean-Baptiste Forqueray publie des pièces de viol de son défunt père. Il dédie le volume à Henriette de France, elle-même très amatrice de viol de gambe et bonne musicienne. Madame, l'ouvrage que je prends la liberté de vous offrir a mérité à feu mon père la réputation dont il a joui pendant sa vie. Et la protection que vous voulez bien lui accorder, madame, va lui assurer l'immortalité. La viole, malgré ses avantages, est tombée dans une espèce d'oubli. Votre goût, madame, peut lui rendre la célébrité qu'elle a eue si longtemps. Il peut exciter l'émulation de ceux qui cultivent la musique. Pour moi, madame, un motif plus pressant m'engage à redoubler mes veilles. Le bonheur que j'ai eu de vous voir applaudir à mes faibles talents va renouveler l'ardeur de mon zèle. Heureux si par mon travail, je puis contribuer à vos amusements. L'idée de Jean-Baptiste Forqueray en publiant les pièces pour viol de son père serait donc double. D'une part, assurer l'immortalité paternelle et d'autre part, remettre son instrument, la viole de gambe, à la mode, alors qu'elle est tombée dans une espèce d'oubli. Mais son père s'est retiré vers 1727 et donc les pièces qu'il a écrites, nécessairement antérieures, risquent bien d'être un peu démodées justement. C'est pourquoi Jean-Baptiste annonce dans l'avertissement qu'il a modifié quelque peu les originaux. On croit comprendre à le lire que les pièces de viol et les pièces arrangées pour le clavecin peuvent être jouées ensemble. Mon intention, en donnant ces pièces au public, étant d'amuser trois personnes à la fois, écrit-il, j'ai jugé à propos d'en faire la basse très simple, afin d'éviter la confusion qui se trouverait avec la basse des pièces de clavecin que j'ai ornées autant qu'il m'a été possible. Mais il parle de ces pièces comme si c'était les siennes propres, non ? Jean-Baptiste Forqueray parle des pièces qu'il édite sous le nom de son père Antoine, comme si c'était les siennes. Voilà un fait étrange. On constate un autre fait étrange en plongeant le nez dans les titres desdites pièces. Si je prends la troisième suite par exemple, en dehors de la pièce intitulée « La Régente » qui fait référence au régent Philippe d'Orléans, pour qui a travaillé le père Antoine, toutes les autres pièces évoquent des personnages contemporains du fils Jean-Baptiste. Le premier numéro, par exemple, s'intitule « La Ferrand ». Ferrand, Joseph Hyacinthe, est un claveciniste amateur, compositeur et cousin de la marquise de Pompadour. Il est le claveciniste attitré de son théâtre vers la fin des années 1740. La Tronchin, troisième pièce de la suite, est un portrait du docteur Théodore Tronchin, membre du cercle de la Pouplinière, riche fermier général, dont l'orchestre joue les œuvres de Rameau depuis 1731. La troisième suite présente aussi une particularité. Dans l'avertissement, Jean-Baptiste Forqueray nous dit qu'il manquait quelques pièces dans cette suite et que donc il en a rajouté de son cru. C'est le cas de la Duvaucel, dans laquelle on reconnaît l'un des membres de la famille Duvaucel, des fermiers généraux. De même que pour les pièces qu'il attribue à son père, on constate qu'en passant de la version pour viol de gambe à la version pour clavecin, Jean-Baptiste Forqueray ajoute effectivement beaucoup. Écoutez par exemple la basse jouée à la main gauche dans la Duvaucel. Dans la version viol qu'on vient d'entendre, la basse est très simple. Dans la version clavecin, elle est beaucoup plus remuante. une nouvelle question se pose lorsqu'on réfléchit au métier de forqueur et fils. Jean-Baptiste, comme son père, est violiste. Il joue de la viole de gambe. Il n'est pas claveciniste. Comment se fait-il qu'il propose une version pour le clavecin des pièces pour viol ? Michel Desvérité, qui a récemment enregistré toutes ses pièces, imagine que ce n'est peut-être pas lui qui aurait mis au point cette version, mais plutôt sa jeune épouse Marie-Rose Dubois, excellente claveciniste, dont la réputation, disent ses collègues, est éclatante. Il est curieux de remarquer qu'entre les pièces publiées sous le nom de Forqueret père et celles qui sont ajoutées par Forqueret fils, il n'y a pas une grande différence de style. On peut même dire aucune. Ce qui ajoute encore une question. Est-ce que les pièces censées être du père ne seraient pas du fils ? Ou alors, le fils a-t-il tellement transformé les pièces de son père pour les mettre au goût du jour qu'il les a rendues siennes ? Nous n'avons pas la réponse, nous n'avons que la question. Mais alors, on se dit, quelle admiration, quel amour profond il devait avoir pour son père, sans doute un homme admirable. Et là, en revanche, nous avons quelques éléments de réponse. Par un certain nombre de papiers de la famille Forqueret, des actes notariés, des minutes de procès, nous avons quelques détails sur Antoine, le père, et ses principes d'éducation. Il apparaît que celui-ci, violiste virtuose, très tôt reconnu par le roi Louis XIV, s'est marié en 1697. Quelque temps plus tard, le couple a un premier enfant, une fille. Et dès après la naissance, l'épouse se plaint de son mari, qui lui fait subir des sévices physiques et moraux. Là-bas, la prive de nourriture et l'empêche de voir ses parents. Elle revient pourtant au foyer conjugal et donne naissance à Jean-Baptiste en 1699. Néanmoins, les choses n'ont pas dû s'améliorer. Elle est à nouveau battue, tout comme son fils, et elle se sépare de son mari définitivement en 1710. Pendant ce temps, le petit garçon apprend la viole à son tour et il devient lui aussi un éminent virtuose. Voilà qui ne plaît pas à son père, qu'il fait mettre en prison à l'âge de 15 ans, sous prétexte que l'adolescent a profité des entrées qu'avait son père dans de grandes maisons pour y voler argent, tabatière et autres bibelots. Quelques années plus tard, alors que Jean-Baptiste est devenu un jeune adulte, toujours aussi habile sur la viole, Antoine, son père, juge opportun de demander à un tribunal que son fils soit exilé hors de France. On se dit que peut-être le garçon était vraiment un garnement. Mais on apprend qu'après quelques semaines d'exil seulement, grâce au soutien de personnages importants, Jean-Baptiste revient, lavé de tout soupçon. Antoine, devenu vieux, va bientôt se retirer et il a l'air de se calmer un peu. Il établit pourtant un testament qui déshérite son fils, mais sur lequel il reviendra. Finalement, à la mort de son père en 1745, Jean-Baptiste aura une petite partie de la fortune, la grande partie allant à sa sœur aînée. Bref, après tant de maltraitance, il est difficile d'imaginer que les sentiments du garçon pour son père étaient un amour sans mélange. Antoine Forqueray s'est retiré de la scène publique vers 1727. Il a à ce moment-là laissé le champ libre à son fils Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui aussi, est rapidement devenu musicien de la chambre du roi. Lui aussi a eu pour élève les grands personnages de la cour. Et en plus, il a joué au concert spirituel et dans les salons de la bourgeoisie des Lumières. Il a réussi à mettre de côté son passé familial tumultueux et douloureux pour le transformer en énergie positive. Qu'il ait composé lui-même ou seulement adapté les pièces pour viol de son père, qu'il ait composé lui-même les versions pour clavecin ou qu'il ait laissé ce soin à son épouse Marie-Rose, on constate en tout cas qu'il a réuni sur une même partition les deux noms de Jean-Baptiste et d'Antoine Forqueray. Sinon pour l'éternité, du moins pour très longtemps encore. Atsushi Sakai, Marion Martine au viol de gambe, Christophe Rousset, clavecin. Et je voudrais vous signaler aussi le coffret Harmonia Mundi qui est sorti récemment avec Michel Desvérités au clavecin et pour certaines pièces, Kaori Uemura, Ricardo Rodriguez, viol de gambe et Robert Conen, clavecin. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Guillaume Ledu pour le mixage et Françoise Monteil pour les recherches et le site.